financement de départ anticipé, en quoi ça dérange les gens? Nom de Dieu, c'est un truc de dingue, ça.
Mais
on le finance nous-mêmes.
Mais je
quand on a
répète...
des augmentations de salaire et que ces augmentations de salaire est le fruit justement du travail des cheminots, en quoi ça gêne les gens?
Mais par
c'est
tout
quand même
simplement.
Un truc de
mais alors je vous réponds parce que le salarié du privé n'est pas soumis à la même loi.
Mais toutes les entreprises privées, à commencer par les grandes entreprises, peuvent négocier. Des
mais
accords
ils ne le font pas. Ils ne le font mais... pas. À Europe 1, les gens, ils vont pas se mettre en grève. Hein.
Vous
mettez en grève, le pays est arrêté. Donc évidemment, le rapport de force n'est pas le même.
Les chauffeurs routiers ont un système de départ anticipé qui existe aujourd'hui chez les chauffeurs routiers. Ça existe déjà et qui sont des salariés du privé. Il y a un certain nombre de grandes entreprises. Après, nous, on s'est battu pour l'avoir.
Mais c'est pas vous n'êtes pas battu. Vous avez un rapport de force qui vous permet d'être en grève et d'arrêter le pays, Fabien Villedieu. Vous n'êtes pas battu. Moi, je veux bien me battre avec vos armes. Il n'y a pas de souci.
C'est que on doit avoir une petite utilité sociale pour avoir ce rapport de force. Bah, c'est qu'on a une utilité sociale,
mais,
évidemment.
Mais j'entends donc, ce que vous dites, mais je vous dis, c'est dérogatoire du système général. Alors, écoutons, Bruno Retailleau était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et Europe 1. Et voilà ce qu'il a dit sur cet accord.
Il faut que les Français le sachent, c'est une capitulation.
Capitulation.
Bien sûr, c'est une capitulation.
Les mots sont forts pour un accord...
Non, le chantage a payé.
Ah, c'est un chantage.
Le chantage à la grève a payé, voilà. Le chantage a payé, mais la gréviculture a gagné. Et en réalité, on a le contournement de la réforme des retraites qui a à peu près un an seulement sur des fonds publics. On a trop de déficits. Mais en 2022, c'est près de 20 milliards de subventions à la SNCF. Et là, la SNCF achète la paix sociale sur le dos du contribuable, sur le dos aussi des usagers.
Bon, Fabien Villedieu, la gréviculture a gagné, dit M. Retailleau. Votre sentiment ?
Bah, le rapport de force a gagné, oui. Mais ça, c'est la vie. Hein.
Ben
M. Retailleau, il découvre la vie. On dirait un poussin de 6 semaines. Bah oui, quand vous avez un rapport de force... Vous vous mobilisez, ben il découvre la vie, ben vous pouvez gagner des avancées sociales. C'est l'histoire du mouvement ouvrier. Ben, toute l'histoire
non,
du mouvement ouvrier
est
une succession de grèves, de mobilisations. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que quand on fait grève au mois de février, on est critiqué. On prend les agents en otage. Là, on a un rapport de force, on a un accord.
Bah, vous avez
du coup, on fait pas grève.
Oui, mais
et du coup, on fait pas grève et on est quand même critiqué.
Sinon,
on est critiqué.
Là, vous êtes gonflé. Vous faites pas grève parce que vous avez eu tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a plus de raison de faire grève.
Mais ce qui intéresse les voyageurs, ce qui intéresse les voyageurs, c'est qu'il y ait leur train. En vrai.
Ah bon?
Dans la vraie vie.
Il n'y a pas que ça. Il y a quand même une forme d'égalité du traitement des salariés devant un régime. En fait, je trouve qu'il y a un côté bras d'honneur là-dedans.
On a tous le même régime. Voilà. Tout le monde a le même régime. Les nouveaux embauchés de la SNCF sont au régime général de la sécurité sociale. Par contre, toutes les entreprises et toutes les grandes entreprises peuvent négocier des accords pour atténuer les effets de ces réformes des retraites, c'est ce qui a été fait. La question, ce qui choquerait effectivement, c'est si effectivement le contribuable payait ce système qui nous permet de partir plus tôt. Mais par ailleurs, je tiens à dire à M. Bruno Retailleau qui aime bien utiliser les 20 milliards d'argent public qui sont donnés à la SNCF. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est l'ensemble du réseau. Et aujourd'hui, le réseau est emprunté par plein d'autres compagnies que la SNCF. Mais passons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, le contribuable donne 25 milliards. Donc, il donne beaucoup plus d'argent au système ferroviaire privé. Et je vous donne le mille, en Angleterre, c'est que des boîtes privées. C'est-à-dire, penser que si demain, on a d'autres sociétés, voire des entreprises privées, qui vont faire circuler des trains en France, ça coûtera moins cher aux contribuables pour faire fonctionner ce financement. Je vous invite à vous regarder, à vous reporter ce qui se passe en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, le contribuable met plus d'argent pour faire financer le système ferroviaire, alors que c'est un système qui est moins efficace parce qu'ils ont un réseau deux fois plus petit que le nôtre et là-bas, il n'y a pas de TGV.
Je suis
donc ça coûte
d'accord
beaucoup plus cher
avec vous là-dessus.
Vous m'avez
convaincu.
Des boîtes privées qui ne savent pas faire du train en Grande-Bretagne.
Vous m'avez convaincu là-dessus. La SNCF, c'est un monopole naturel à mes yeux.
Vous l'entendre dire.
Mais oui, parce que je trouve que ça fait partie des grands services publics. Je trouve qu'effectivement, il y a des lignes qui sont déficitaires, mais ce n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle le service public. C'est l'aménagement du territoire. C'est permettre à certaines gens d'avoir accès, comme comme les autres à des trains, donc je pense, pourtant je suis plutôt d'inspiration libérale, mais il y a comme toujours la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, et dans certains domaines, c'est très bien qu'il n'y ait pas forcément de concurrence. Encore faut-il que la SNCF ait effectivement les mêmes règles, ou en tout cas des règles très voisines du privé. Et là, il me semble que ce n'est pas le cas. Mais Nicolas, voulez-vous dire un mot? Parce que Nicolas, bonjour, vous êtes dans les transports, Nicolas?
Bonjour Monsieur Pro, bonjour à toute l'équipe. Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes salarié?
Alors moi, je suis salarié du privé, je suis dans le transport. Mmh. Alors, je ne suis pas sur les rails, mais je suis sur la route.
Oui.
Voilà. Mais vous avez tout résumé, Monsieur Pro, c'est-à-dire que les salariés en fait de la SNCF bénéficient de certains avantages qui, depuis longtemps maintenant, ne méritent absolument plus. Après, ils ont cet avantage, c'est que c'est une grande entreprise, une grande société qui leur permet, lorsque eux se mettent en grève, de pouvoir briguer absolument tout ce qu'ils veulent. Vous avez eu, il y a quelques mois de ça, un salarié de la SNCF qui donnait sa rémunération. Je la trouvais extraordinaire par rapport à celle du privé. Il parlait du nombre de jours de congés payés dont il bénéficiait annuellement, sans parler des RTT. C'est-à-dire que les conditions, évidemment, sont totalement inégales entre, on va dire, les salariés du public, d'une manière générale, et les salariés du privé. Il suffit juste de regarder, par exemple, un exemple simple, vous regardez les enseignants. Les enseignants n'ont pas de jours de carence. Aujourd'hui, on en est à parler de 8 jours de carence dans le secteur du privé. Vous vous rendez compte?
Voilà. Non, on ne dit et pas 8, ça pourrait être 6. Hein. Moi, je n'ai pas entendu 8, mais déjà 6, c'est beaucoup, effectivement.
Éventuellement, mais même 6, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on en a 3 aujourd'hui quand tu en
oui,
as.
Oui, non, mais il y a des avantages. Alors, c'est vrai que dans le public, historiquement, mais c'était le public était moins bien payé. Surtout. Bon, il était moins bien payé. Maintenant, c'est vrai que le privé est tellement mal payé que des salaires.
Ah bah, le public l'a bien rattrapé, hein, faut être honnête. Hein.
Bon, Fabien Villedieu, en tout cas, c'est même pas à vous que je jette la pierre, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous faites, vous parlez pour vous et vous défendez vos intérêts. Et évidemment, si on vous les accorde, c'est pas à vous, en fait, que je jette la pierre. Je le répète, hein, c'est plus à ceux qui, parce que les JO, parce que c'est quand même une question qu'on peut vous poser, Fabien Villedieu. S'il n'y avait pas les Jeux Olympiques, il n'est pas sûr que vous auriez signé cet accord.
Oui, sûrement. Et alors
c'est honnête.
Qu'aujourd'hui, on utilise. Non, mais il y a un moment donné, il faut être. La vraie vie, c'est le rapport de force.
Ben, bien sûr.
Et le rapport de force permet d'avoir des avancées sociales. Et d'ailleurs, je tiens à dire quand même, par rapport à la personne qui a parlé avant, les cheminots se sont beaucoup battus pour les salariés du privé. Et si aujourd'hui, notamment dans le privé, on part à la retraite bien plus tôt que dans les autres pays européens, c'est en partie parce que les cheminots ont perdu de l'argent, parce que quand on fait grève, on perd de l'argent. Nos anciens, en 95, c'est les cheminots qui ont sauvé le système et qui fait qu'aujourd'hui, on part plus tôt. Donc, au lieu de se jalouser, il faut aussi se rendre compte de la réalité et dire de temps en temps un peu merci aux cheminots.
Bah écoutez, merci d'être à l'heure déjà. Pour les cheminots, moi je trouve qu'effectivement, alors ça c'est un autre problème, et là je vais vous rejoindre et on va être d'accord, c'est-à-dire que depuis des années, on a fait une politique pour les TGV, massive, mais les lignes des TER sont parfois dans un état invraisemblable. RERB, ah si, parfois les
lignes. Il y a des nouvelles rames qui sont pas mal, quand même.
Les lignes secondaires, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas dans quel pays d'ailleurs d'Europe ou du monde c'est mieux, hein. Peut-être que ce n'est pas mieux, je voyage plus suffisamment aujourd'hui pour le constater, mais je rêverais que nos infrastructures soient au top, je rêverais que nos rames soient en très bon état, je rêverais que les rails soient performantes, je rêverais que tous les trains arrivent à l'heure. Et c'est vrai, Fabien Villedieu, que c'est hélas pas toujours le cas.
Alors, sur cette question, je n'aime pas parler trop de ma vie, mais je vais quand même vous parler de ma vie. J'ai été en Allemagne ce week-end, à Essen. Donc, on prend le TGV Eurostar pour aller jusqu'à la ville d'Essen. Donc, vous faites à 300 km/h jusqu'à la frontière française. Et à partir de la frontière française, vous roulez à 50 km/h pendant 250 km. Toute la partie belge des Pays-Bas et de l'Allemagne, je me disais, mais comment les gens ne peuvent pas se rendre compte de ça? Qu'on a un système, oui, effectivement, de temps en temps, il y a des retards. Oui, de temps en temps, les choses ne sont pas parfaites. Mais je vous invite à aller dans les autres pays, vous rendre compte que les systèmes ferroviaires dans les autres pays, dans la plupart des endroits, c'est la catastrophe, mais la vraie catastrophe. Pas, j'ai mon train, j'ai eu 10 minutes de retard, donc ça ne va pas. On a un bon système ferroviaire. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent à Reims, qui vivent à Bordeaux et qui travaillent à Paris grâce au TGV.
Ouais, plus à Reims peut-être qu'à Bordeaux, parce que Bordeaux, quand même, il y a quand même...
Oui. Mais moi, je mets 2 heures pour aller au boulot. J'habite en banlieue parisienne. Je mets 2 heures pour aller au boulot tous les jours. 2 heures aller, 2 heures.
Non, mais c'est vrai que le TGV, moi, je suis assez d'accord avec vous, puisque je suis familiarisé avec le TGV, puisque je suis très souvent à la gare pour attendre une amie proche, et plus que ça, même. Donc, il y a peu de retard. Non, non, mais c'est vrai, ma fiancée, elle vient régulièrement, effectivement, elle voyage beaucoup, donc
par
je vais la chercher très souvent, et parce qu'elle voyage beaucoup, et c'est vrai que ça marche globalement. Par exemple, il n'y a pas eu un retard sur, alors je dirais pas d'où elle vient, mais il n'y a pas eu un retard au-delà de 30 minutes depuis que je la connais. C'est jamais arrivé.
Ah oui, donc depuis de nombreuses années.
Oui. Il n'y a jamais eu un retard depuis au-delà d'une demi-heure. Jamais. Donc c'est une statistique. On a tous, évidemment, la peur qu'on a, c'est de passer une nuit dans un train. Mmh. Et là, ça arrive et ça arrivera. Quand c'est toi, c'est terrible, bien sûr. Parce que les incidents, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas le problème des TGV. Le problème, c'est effectivement les lignes parfois secondaires.
Après, les trains du quotidien, il y a quand même eu des efforts qui ont été faits pour habiter en Île-de-France. Le matériel est globalement neuf. Les gares ont été globalement refaites. Pour un pass Navigo à 87 euros quand vous êtes salarié, remboursé à 50%, donc pour 43 euros par mois, enfin, faut pas exagérer quand même. Vous allez dans n'importe quel restaurant, à deux, vous en avez pour plus que pour payer votre pass Navigo pour un seul repas. Et là, vous avez trains neufs.
Le problème, c'est que c'est cher, mais c'est pas de votre. C'est incroyablement cher, le train. C'est ça qui est là. On est tous en train de prendre nos billets pour l'été. Les billets, notamment évidemment pour les plus jeunes, ceux qui sont les moins favorisés en termes financiers, c'est incroyablement cher. Les allers-retours, c'est incroyablement cher. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Merci Fabien Villedieu. Vraiment, merci. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous. Que vouliez-vous dire, monsieur? Ah, d'abord, on va voir si vous suivez.
Bon. Qu'est-ce qu'on fait? 2-3 messages ou...
Oui,
allons-y. Bon, allez, c'est parti pour Yves. La SNCF a un pouvoir dans ce pays qui est bien trop important. Il va falloir réfléchir à une manière de le réduire. Et Annie, enfin, ils se servent de tous les grands événements en France pour négocier leurs petits intérêts personnels. Voilà, Pascal.
Pascal Pro sur Europe 1.
Une belle histoire avec mon fils m'a sauvé la vie. C'est les mots très émouvants de Christine. Et je crois que c'est une histoire que nous avons lue, que Laurent Tessier a lue dans le Télégramme de Brest. Et il a voulu entrer en contact avec Christine qui est avec nous. Bonjour Christine.
Bonjour à vous.
Et merci d'être avec nous. Vous habitez, je crois, Saint-Jean-Brévelay dans le Morbihan.
C'est exact.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé?
C'était un dimanche, c'était le dimanche 24 précisément. C'était midi, je prépare à manger à mon fils et je décide, moi, d'aller prendre ma douche à ce moment-là. Donc, je pose mon fils devant la télé et je lui ai appris, en fait, après, chaque éducation est différente, bien évidemment, hein, chacun fait comme il l'entend. Mais moi, chez moi, il fait quand il se sert, je le prive de rien, mais quand il se sert, je demande à ce qu'il me demande la permission. Et quelque part, c'est un peu ce qui m'a sauvé la vie, puisque à ce moment-là, moi, j'étais à la douche, j'avais fini ma douche, j'étais pas bien à ce moment-là. J'ai eu le réflexe de m'allonger moi dans la baignoire, et lui a eu besoin de me demander quelque chose, il m'a vu allongée dans la baignoire. Et pour lui, il a eu peur, il a cru que j'étais tombée et donc du coup, il a eu le réflexe d'appeler les pompiers, a eu le SAMU et je pense que de là, il a eu un certain nombre de questions auxquelles il ne pouvait pas répondre et a eu le réflexe d'aller chercher un voisin pour reprendre la suite des événements et les pompiers sont arrivés et ensuite, hospitalisation pendant une période de 15 jours puisque c'était une rupture d'anévrisme.
Ah oui ?
Oui.
Ça, c'était le 24 mars, dites-vous ?
C'est ça.
Donc, c'est ça. On est aujourd'hui le 24 avril, il y a exactement un mois.
Exactement.
Et c'est indiscret de vous demander votre âge, Christine ?
Non, du tout, j'ai 46 ans.
Et il n'y avait jamais eu de symptômes avant cette rupture d'anévrisme ?
Non, du tout. J'ai eu des maux de tête, mais a priori, les maux de tête n'ont rien à voir avec ça. A priori, ça vient soudainement, comme cela... Donc, heureusement que mon fils a eu le bon réflexe et que c'est des choses dont on avait échangé ensemble, puisque je vis toute seule avec mon petit garçon et je fais un peu le jardin ou autre. Et donc, du coup, je lui ai expliqué quand je vais au jardin, si toutefois il m'arrive quelque chose, d'avoir le réflexe d'appeler soit les pompiers ou soit d'aller voir un voisin quelconque. Et en fait, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et en même temps, c'est des choses qu'ils ont vues aussi à l'école. Donc, pourquoi je passe aujourd'hui, pourquoi j'ai accepté, non seulement pour rendre honneur à mon fils, bien évidemment, mais surtout pour alerter les parents, de leur expliquer, en fait, les gestes à avoir lorsqu'il vous arrive quelque chose, quoi.
Et votre fils, Nathanaël, il a 7 ans, mais quand vous étiez dans la baignoire, vous étiez consciente, vous auriez pu vous-même appeler...
J'étais inconsciente. J'étais inconsciente, voilà pourquoi en fait il a eu le réflexe d'appeler les pompiers.
Donc quand les pompiers sont arrivés, vous étiez encore inconsciente ?
Non, puisque c'est ma voisine qui a pris ensuite le relais. Et c'est de là en fait que j'ai repris en fait un petit peu connaissance, mais j'étais complètement perdue. C'est les pompiers qui m'ont sorti de la baignoire, plus exactement.
Bon, donc j'imagine effectivement que pour vous, la rupture d'anévrisme, je le rappelle, hein, c'est une affection qui se produit lorsqu'une partie de la paroi d'un anévrisme se rompt. Cela peut provoquer un hématome intracrânien, ce qui est une accumulation de sang dans le cerveau. La rupture d'anévrisme est une cause possible d'AVC. Alors, est-ce qu'il y a eu AVC dans votre cas ? Non, il n'y a pas eu d'AVC.
Du tout.
Ce qui fait qu'a priori, il n'y a pas de conséquences, et on le voit bien lorsque vous exprimez, parce que les AVC peuvent laisser des conséquences... terrible.
Dramatique, oui, tout à fait. Là, c'est en ça où, en même temps, je me dis que mon fils m'a sauvé la vie, mais en même temps, effectivement, les services médicaux ont agi rapidement, puisque suite à cela, j'ai aucune séquelle. Pas de séquelle physique, pas de séquelle mentale. Après, il est vrai que je marche beaucoup au ralenti, que je fatigue très rapidement, mais on m'a dit que c'était un peu normal et qu'il fallait laisser le temps au temps, et avoir de la patience.
Mais j'imagine que vous avez surtout eu peur.
Pas sur le coup, parce que je ne me rendais pas compte et que je ne savais pas en fait ce qui se passait, et puis que j'étais complètement à l'ouest, quoi. Mais premier réflexe quand les pompiers sont arrivés, c'était d'appeler ma sœur et le conjoint avec qui je suis actuellement, avec qui je ne vis pas, de façon à prendre le relais pour mon fils, quoi. C'était juste ça pour moi, ma préoccupation.
Alors, je suis en train de regarder le télégramme de Brest et je salue le télégramme de Brest, et c'est l'ami Laurent Tessier qui me montre cette photo. La photo, on vous voit avec votre fils qui a un t-shirt jaune, Explore the World. C'est une photo qui a été prise après, évidemment. C'est une photo qui a été prise il y a quelques jours. Forcément.
Oui, c'est ça. Écoutez, il y a à peine une semaine.
C'est formidable, Nathaël. Il est à l'école, là, Nathaël ?
Non, il est chez son papa. Étant donné que nous sommes parents séparés, il est parti en vacances chez son papa.
Bon, et c'est vrai que ces accidents vasculaires cérébraux peuvent... effrayé, et j'imagine aujourd'hui, alors est-ce que on vous demande de moins travailler peut-être, de moins vous fatiguer, est-ce qu'on a supprimé des choses dans votre alimentation, vous allez être suivi, j'imagine, régulièrement, comment ça va se passer ?
Alors, pour le moment, je vais être suivie pendant une période de 10 ans, a priori, de ce qu'on m'a dit. Là, je vais passer un scanner dans peu de temps, au début mai. Ensuite, ça sera 3 mois après, ensuite 6 mois, ensuite tous les ans, et ensuite tous les 2 ans, et ce pendant 10 ans. Non, on m'a rien conseillé en ce qui concerne mon alimentation ou autre. Il est vrai aussi que j'étais une fumeuse, et pour autant, j'ai arrêté de fumer. Donc, c'est déjà une bonne chose.
Quand ça fout la trouille comme ça. Alors, je vais faire un petit test. Et on va voir si les uns et les autres... Mais vous ne trichez pas, parce que c'est vraiment pour savoir. Bon, est-ce que vous savez le numéro des pompiers ?
Bien sûr. Non mais évidemment. C'est là, par contre, 18.
18. Et urgence médicale ?
15.
Non mais c'est bien, je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Il y a des gens, je ne suis pas sûr qu'automatiquement tout le monde sache en France...
17, 18, 15...
Je n'en suis pas sûr, vous le saviez tous, par exemple, Julien Blanc
Oui.
Non, oui, mais oui. On ne triche pas, là. Florian
Oui, je sais, je le connaissais.
Voilà. Bon, écoutez, c'est bien. Et vous-même
J'avais un petit doute entre le 15 et le 18.
Voilà. Ouais. Si tu tombes au 14, je voudrais le 14 à Asnières. Je voudrais le 22.
Non, mais voilà, mais c'est hyper important. Et c'est vrai que.
Je voudrais le 22 à Asnières. Et là, tu trouves que c'est le boulanger, c'est la boulangerie. Mais j'étais honnête. C'est pas les pompiers.
Ouais. Bon, bah écoutez, c'est une belle histoire. Et j'imagine. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'il vous dit? Il en a pris conscience? Vous l'avez embrassé, félicité? Vous lui avez dit des
bien
choses.
Bien évidemment.
Mais voilà,
Oui. Quand il était chez sa tante, effectivement, ma sœur l'a félicité. Son papa aussi, lorsqu'il est venu pour le week-end de Pâques, c'était pas prévu, mais en vue des circonstances, il est venu voir son fils. Et effectivement, il en a discuté avec son papa. Son papa est très fier également. Également. Les retrouvailles ont été très intenses, je ne vous le cache pas.
C'est formidable. Bon, 15 jours quand même d'hospitalisation, hein, c'est pas rien. Hein. S'ils vous ont gardé 15 jours, c'est que c'était sérieux.
Bah oui, j'étais en soins intensifs. Donc,
À quel hôpital vous étiez?
À celui de Rennes.
De Rennes. Très bon hôpital, hein, de Rennes. C'est un des meilleurs. Je suis passé par l'hôpital de Rennes il y a 2 ans et c'est un très bon hôpital. Rennes, et qui est parmi les mieux classés, je crois.
Pascal Praud et vous, sur Europe 1.
Monsieur Allouche, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Sucre, l'ennemi public numéro 1, prédiabète, diabète, prise de poids, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Le sucre est partout dans l'alimentation. 1 milliard d'humains sont pré-diabétiques. Il faut agir tant que les atteintes sont réversibles. Écrivez-vous, on ne peut plus nier qu'aujourd'hui, que l'augmentation massive de l'obésité, du diabète, de la maladie du foie gras est liée à la surconsommation de sucre, amplifiée par ces nouveaux complices, les mauvaises graisses, le manque d'activité physique, les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens invisibles, mais de plus en plus présents. Il s'agit d'une épidémie mondiale.
Absolument.
Bon,
c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Bien sûr.
Parce que quand on voit les chiffres, 1 milliard de prédiabétiques et 70% seront diabétiques dans les 10 ans. C'est-à-dire que le stock est devant nous. Il y a à peu près 800 millions de diabétiques de type 2. On parle du diabète de type 2. Vous savez qu'il y a plusieurs types de diabète. Diabète type 1, c'est 10% de tous les diabètes. C'est une maladie auto-immune qui en général se déclare avant 20 ans. Et puis le diabète de type 2, qu'on appelle diabète sucré, qui... Il y a encore 40 ans, c'était après 60 ans. Aujourd'hui, c'est après 25-30 ans. Donc, il y a vraiment une sonnette d'alarme à tirer, parce que si on continue comme ça, on va se retrouver avec une épidémie qui est déjà présente, mais qui va supplanter toutes les autres maladies.
Où est-ce qu'on trouve du sucre en dehors de là où on l'imagine, c'est-à-dire dans les desserts, dans les sodas, etc. Est-ce qu'il y a d'autres aliments où il y a du sucre et on ne le sait pas forcément?
Alors, il y a des aliments salés qui sont sucrés. Je prends un exemple qui est caricatural. C'est par exemple, vous achetez un pot de cornichons en saumure. Donc, vous achetez du salé. Eh bien, dans l'eau des cornichons, dans l'eau de la saumure, il y a du sucre. Tout simplement, pourquoi ? Il n'y a pas de complot de la part des industriels. C'est que le sucre, c'est un très bon conservateur, c'est un exhausteur de goût, ça couvre les acidités, si les cornichons ne sont pas... voilà. Et donc, en fait, c'est open bar, on en met absolument partout. Donc, en fait, vous pensez manger du sucre quand vous mangez des fruits, quand vous mangez des gâteaux, quand vous buvez des sodas, mais il y a tous les autres sucres qui sont dans les aliments industriels. Et encore une fois, ce n'est pas un complot, c'est que la réglementation est très... Il y a une chose, je prends toujours cet exemple, excusez-moi, il est un peu grotesque. Moi, je fais de la moto, je mets des gants. Si je ne mets pas de gants homologués avec des bandes jaunes, j'ai un point de moins ou 2 points de moins. Alors que la quantité de sucre qu'on peut mettre dans les bonbons de nos enfants, dans les gâteaux, dans la saumure des cornichons, il n'y a aucune réglementation.
C'est ce que vous écrivez. Il est également étonnant de constater qu'aucune loi ne précise les quantités maximales de sucre pouvant être incorporées à nos produits industriels.
Absolument. En 2012, il y a une tentative du gouvernement. Ce n'est pas facile pour les gouvernements, hein, parce que les lobbies sont puissants. Il y a toute la chaîne agroalimentaire derrière. Donc ils essayent, hein, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire. Mais il y a eu un accord sur le fait de réduire de 5% la quantité de sucre dans les produits alimentaires, et particulièrement ceux pour les enfants. Il y a une taxe qui existe en fonction de la quantité de sucre. Mais au fond, tout ça, c'est vraiment cotter sur jambe de bois, parce que la réalité, c'est que regardez les étiquettes des produits que vous achetez, et vous allez voir que les sucres sont absolument partout. Ils le sont d'ailleurs sous plusieurs noms. Hein. Il y a sirop de fructose, fructose, galactose, sirop de glucose. Au fond, c'est très très difficile aujourd'hui, parce que 80% des produits que vous trouvez dans vos supermarchés sont des produits industriels. Et que dans ces produits industriels, pour des raisons de conservation d'avoir un bon goût, être palatable, comme disaient les techniciens, eh bien on met du sucre.
Et c'est vrai aussi que ces produits sont peu chers, et c'est pour ça que les gens sont dans les supermarchés, hein, ça la vérité. Avant de marquer une pause, un chiffre qui est intéressant, en 2020 en France, l'obésité s'élevait à 17%, alors qu'elle était de 8% en 97. Donc en 28 ans, 27 ans, on a doublé le nombre d'obèses. Alors, c'est peut-être pas lié qu'au sucre, sans doute.
Non, il y a beaucoup de causes. Si on parle du diabète et des risques de diabète ou de prédiabète ou même de NASH, qui est le foie gras, d'abord, il y a l'hérédité. Nous sommes les enfants et petits-enfants de nos parents.
Oui.
Donc, s'il y a déjà un diabète dans la famille, il faut vraiment se bouger. Excusez-moi de ce terme. Il faut savoir que si un parent est diabétique, on a 30% de risque de l'être. Ouais. Si deux parents sont diabétiques, 60%. Deuxième chose, c'est la sédentarité. Vous avez dit en 27 ans, mais vous avez vu aujourd'hui qui fait ses courses, qui cuisine. Les livraisons dans les villes aujourd'hui, dans les centres-villes, les livraisons, on se fait livrer ces aliments, ces repas, qui sont souvent, pour des raisons de conservation, plus sucrés et plus gras. On bouge beaucoup moins, on a urbanisé le pays. L'urbanisation, nos urbanistes, certes brillants, ont prévu très peu d'espaces verts. Très peu d'endroits. Dès qu'on a l'espace vert.
Toujours pareil, c'est aussi aux parents de faire du sport à leurs enfants et de sortir eux-mêmes. Moi, j'en ai marre toujours d'accuser les autres. T'es un peu responsable de la vie que tu mènes. T'as des enfants, tu leur fais faire du sport.
Le père ou la mère prend son sac pour aller à la salle de sport ou aller courir, le fils ou la fille prendra son sac.
Bien sûr.
Si les parents sont dans le canapé,
ça marche. Je suis complètement d'accord. Alors, en plus, comme on a mis tout le monde dans un canapé en 2020 avec le Covid, ce qui n'était pas non plus le plus malin. Ce qu'on a fait, on a empêché les gosses de faire du sport. Donc évidemment, il y a des conséquences. Le sport, pour les jeunes, il n'y a que ça. Nous, on sortait des heures entières, et on faisait du sport, et on faisait de la compétition, et on était socialisés, et on était licenciés dans des équipes. C'est très bien.
Alors, le sucre nous veut souvent du mal, écrivez-vous, nous vous donnez des conseils. Il ne faut pas sucrer les yaourts de vos enfants, quelques pincées suffisent, il ne faut pas trop les sucrer, mais moi j'ai envie de dire, il ne faut pas les sucrer du tout, mais bon. Les pâtisseries Maison, prenez l'habitude de diviser par deux la quantité de sucre indiquée dans la recette. Vous dites aussi si à l'âge adulte, le sucre fait vieillir prématurément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on mange du sucre, qu'on a passé 50 ou 55 ans, en fait, ça fatigue et on le sent. On le sent immédiatement.
Absolument. Absolument, parce que le sucre, il a deux effets. Le premier, c'est que c'est un problème de tuyaux. Vous avez des tuyaux dans lesquels vous avez du calcaire. Ça va commencer à user vos tuyaux. Le sucre, il ferait exactement la même chose avec vos artères. Mais vous avez deux types d'artères. Vous avez des grosses et des petites. Les petites, c'est simple à comprendre, vous avez dans les yeux. Elles sont tellement petites et fines et transparentes que vous ne les voyez pas. Il y en a aussi sur les nerfs, parce que chaque nerf est irrigué par du sang. Il y en a aussi au niveau, il y a des gros vaisseaux aussi, au niveau des coronaires, des carotides, des fémorales. Et donc, en fait, ce sucre va user les artères. Et à 50 ans, 60 ans, cette usure, elle peut être significative. Donc, c'est ce qu'on appelle la macro-angiopathie. Cette macro, ça veut dire gros. Angio, ça veut dire vaisseau, pathie, ça veut dire maladie. Ça, c'est le premier effet du sucre. La deuxième, c'est la micro-angiopathie pour les petites artères, donc les atteintes rénales, les atteintes de l'œil, des yeux, les atteintes des nerfs. Et puis, donc, c'est une maladie sans aucun symptôme et qui use énormément. Et donc, ça, c'est un vrai, vrai problème. Maintenant, pour l'effet sur l'âge, il faut savoir que quand vous mélangez les protéines de votre corps avec du sucre, il y a une partie de ces protéines qui vont, on dit, c'est un terme un peu technique, qui vont se gliquer. Elles vont s'attacher au sucre. Et le sucre, en s'attachant aux protéines, il va les gliquer, et à ce moment-là, il va inhiber leur action. Et donc, la première chose qu'on voit, d'ailleurs, c'est sur la peau. Vous avez aussi un autre effet, la cataracte. Par exemple, les diabétiques ont plus de cataracte que les autres, parce que les membranes sont gliquées, elles vieillissent, elles se fripent, et c'est pour ça que... Et puis, un autre aspect, si vous avez fait un gros repas la veille, avec un gros dessert, sachez qu'une molécule de sucre entraîne deux molécules d'eau. Donc c'est pour ça que le lendemain matin, on a l'impression d'être un peu bouffi, parce qu'en fait, on a mangé beaucoup de sucre et on a gardé de l'eau. Donc le sucre, c'est comme le sel. Le sel et le sucre, une molécule de chaque 2 molécules d'eau.
Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est quand vous donnez évidemment des conseils. La consommation de frites chez une personne sans problème de régulation des sucres doit être limitée à une seule fois par semaine.
Oh là. Oui. Et quand on est à 7, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais les frites de la cantine, bon, non, mais on n'est pas à 7.
Là-dessus, c'est... Oui.
Oui. Mais bon,
alors vous en mangez tous les jours, Pascal?
Non, mais cette année, en fait, je découvre la cantine d'Europe 1.
Et alors?
Et c'est vrai que la tentation, souvent, est grande. Avant, je ne passais pas par la cantine, donc je ne mangeais pas souvent des frites. Oui. Mais elles sont trop bonnes, ces frites. Et
effectivement, donc vous pouvez peut-être les limiter un petit peu.
Bah, je vais les limiter.
Et puis, vous mettez beaucoup de sel dessus?
Ah non, je mets pas de ça. Ah non, moi, j'aime pas du tout manger ça.
Très bien.
Bon. Les viennoiseries. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de pire, pareil.
Ah bah, c'est gras et sucré.
Non, mais le croissant, c'est ce qu'il y a de pire.
C'est ce qu'il y a de pire. Mais encore une fois, pour les gens de ma génération, on achetait les croissants le dimanche.
Mais vous savez combien j'en mangeais de croissants
le dimanche, pardon?
Combien j'en mangeais de croissants? Je me souviens, j'avais 18 ans.
Dites-moi, avouez-moi.
Le matin, je pouvais en manger 5-6 consécutifs. C'était des.
Ah, et donc vous êtes une force de la nature, alors?
Non, pourquoi?
Parce que résister à 5 croissants tous les jours pendant combien de temps?
Non,
peut-être
pas tous les jours. Oui, quand
t'as 18 ans. Ah non, mais à 18 ans, on a une chaudière.
Voilà, c'est ça.
Oui. Vous savez bien avoir des ados à la maison, vous remplissez un frigo. Vous
êtes une. Il l'a resté.
Ça va, je vais pas. Éviter ce genre de choses, ça m'arrangerait.
Bon, excusez-moi, je ne voulais pas vous traiter de chaudière, mais je pense qu'à 18 ans, nous sommes tous des chaudières.
Non, mais c'est incroyable. Alors, le pain, qu'est-ce qu'il faut prendre comme pain? Parce que, par exemple, ici, dans le petit déjeuner le matin, il y a du pain viennois. Oui. C'est trop bon, ça, le pain viennois.
Le meilleur pain aujourd'hui, parce que les meuniers. C'est le. Non, non, parce qu'il y a un peu trop de gluten. C'est le pain tradition. Les boulangers ont fait un vrai travail. Oui. Ils ont travaillé sur des farines. La baguette tradition, c'est une baguette qui est extrêmement réglementée. Là, pour le coup, les pouvoirs publics ont fait le travail. On doit la lever au levain. Et non au leveur industriel. On ne peut pas ajouter d'améliorant. L'améliorant, les boulangers qui nous écoutent le savent très bien, c'est du gluten qu'on rajoute à toutes les préparations pour faire que la levée soit plus courte et que le pâton soit plastique. La boulangerie, c'est très intéressant. Et en fait, la baguette tradition, c'est le meilleur pain aujourd'hui. Et c'est le plus disponible. Donc, profitez-en.
Okay. Bon, alors le problème, c'est que vous dites préférez toujours les légumineuses, mais bon, les lentilles, voilà.
Lentilles,
les
pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, fèves, topinambours.
Les haricots rouges, je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie. Les fèves, je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie. Je sais pas si vous avez mangé des fèves. Des pois chiches, je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie. Donc, non, mais vraiment, vous avez mangé des pois chiches?
Oui, ça m'est arrivé.
Pourquoi?
Parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, en fait, la plupart des féculents. Non, mais attendez, je vous explique.
On va plus me réinviter. Lors de la Seconde, vous vous souvenez pourquoi vous ne mangez pas de pois chiches?
C'était en 39. Pourquoi?
Des rutabagas.
Parce que les céréales partaient en Allemagne et il nous restait en fait que les lentilles, les topinambours et ainsi de suite. Et pourtant, ce sont des aliments qui sont excellents. Pourquoi? Parce que dans les féculents, c'est un peu technique, vous avez un type d'amidon qui fait très très vite augmenter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Alors que les légumineuses, il y a des fibres, il y a des vitamines, des minéraux et à 50%, un amidon très particulier qui s'appelle l'amylose, qui est difficile à découper.
Voilà. Bon, j'entends bien, mais donc un carré de chocolat noir à plus de 70% n'est pas un problème, mais la tablette en entière, si, bon, ça, on s'en doute un peu. Le Nutella, c'est très mauvais, j'imagine.
Bah, le Nutella, si vous en mangez de temps en temps, il n'y a rien de mauvais.
Oui, j'entends bien.
Si mais vous dites non, jamais, vous
pensez
qu'à ça.
Oui, mais le problème du sucre, c'est que c'est addictif.
Oui.
Et je pense que quand tu es addict au sucre, il n'y a qu'une solution, c'est de l'enlever complètement.
Comme la cigarette.
Comment?
Comme la cigarette. Mais vous avez vu que c'est très très difficile. Parce que l'offre, elle est pléthorique.
Bah, tu fais pas rentrer de petits gâteaux chez toi, de gâteaux chez toi, et quand au restaurant, tu n'en commandes pas.
Et puis, il y a
les amandes, c'est pas mal, les amandes.
Les amandes, c'est pas mal, oui. Ouais, exactement. Parce que les amandes, d'abord, il y a beaucoup de minéraux.
Ouais. Et mais puis, alors, ça donne des aftes, les amandes?
Non, les noix plutôt. C'est plutôt les noix qui donnent des aftes en général, pas les amandes. Les amandes, c'est vraiment très bien. Et si vous pouvez, si vous avez par exemple une envie de sucre, d'un coup, comme ça, parce que vous êtes un peu fatigué, parce que le sucre, ça donne la dopamine. La dopamine, c'est une hormone que le cerveau aime beaucoup. Eh bien, vous rongez des amandes comme ça. Ça va durer, ça va faire
le
un
miel,
peu saliver.
Le miel, je pensais que c'était bien, et finalement, c'est pas si bien.
C'est bien,
ça.
Un filet de miel. Mais il y a beaucoup de fructose dans le miel.
Bon, en revanche, les aliments à privilégier, crustacés, vinaigre, épices, avocat, haricots plats, haricots coco.
pas ce que c'est. Les graines de soja, le tofu.
Il y a d'autres aliments, il y a les poissons, il y a les viandes, il y a le poulet.
Artichaut. Vous avez déjà mangé un artichaut? Je crois n'avoir jamais mangé.
L'artichaut de Bretagne, il n'y a rien de mieux.
Ah bon?
C'est
vachement bon.
Mais je n'ai jamais mangé.
Avec du thillardon.
Écoutez, un cœur de palmier.
L'artichaut de Bretagne, c'est
une pousse de bambou.
Non, on n'est pas des pandas, c'est le panda ça.
C'est l'attaque directe contre la chaudière, vous avez remarqué.
Oui.
Bon, écoutez, non, mais c'était très intéressant, comme toujours, mais de dans, vous écouter.
Dans ce livre, il y a quand même quelque chose, c'est je conseille aux gens qui ont un doute de s'équiper d'un capteur glucose. Aujourd'hui, il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on peut connaître la façon qu'on a de réagir à l'apport de sucre.
Regardez, un repas se prend au calme et dure moins de 20 minutes. Et dure au moins 20 minutes. Oui. Monsieur Boubouk, écoutez ce qu'on vous dit.
Oui.
Un repas se prend au calme et dure au moins 20 minutes. Et nous, on prend un repas en pleine activité à la cantine et en 3 minutes. Donc, on est vraiment très mauvais.
Donc, il faut réformer.
Il faut mâcher en moyenne 12 fois.
Oui.
Oh. Vous la mâchez 12 fois.
Vous avez sur la langue
oui.
10 000 à 12 000 capteurs.
Ah oui, ça, j'ai des capteurs
sont,
moi, sur la langue.
Voilà, qui sont reliés à une glande qui s'appelle le noyau à combin, centre de récompense.
Ah bon?
Si vous mâchez suffisamment, le centre de récompense va faire la dopamine de plaisir.
D'accord.
Si vous faites et vous gobez, à ce moment-là, il n'a pas le temps d'être déclenché. Et toute l'après-midi, vous aurez envie de manger.
Ah bon?
Ah ouais. Essayez ça à midi.
Donc,
essayez
frite,
à midi.
Vous mangez votre frite, vous mâchez, vous.
Mais ah ouais,
ça
moi
veut
je
dire
mâche,
quoi, mâcher deux fois?
Et ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais vous allez voir, vous le ferez très
ici
bien.
Ici et maintenant. Bon.
Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous.
On est peut-être un peu en retard, monsieur Tessier, c'est à vous.
Alors, on y va. Allez, comme au Nouvel An, compte à rebours, maison avant le grand débrief.
5, 4, 3, 2, 1. On devrait faire ça.
Pour le grand débrief, pour faire une bonne émission, et bien, mesdames, messieurs, changez le prénom de vos collègues. Ça marche toujours.
Vous avez entendu Robert Guénèque qui est avec nous. Olivier Guénèque.
Robert Guénèque. Il n'y a plus aucun respect.
Et lancez également votre nouvelle marque de fabrique, Un jour, un concept.
Non essentiel.
Non essentiel.
Oh oui, les informations non essentielles que vous retiendrez à la machine à café. Teasing tout à l'heure dans l'émission.
Le journal permanent.
J'aurais une information importante à vous donner, peut-être après le flash. Tout d'abord, c'est Cédric Chasseur.
Mais quelle est cette information essentielle? Tension extrême dans le studio, tout le monde s'est arrêté.
Je disais à mon amie Géraldine, et c'est vrai, mais je vais être obligé de citer une autre marque, bien sûr, que j'aimais beaucoup les perles de lait. Perles de lait à la vanille, c'est très très bon et j'en achète.
C'était vraiment très intéressant.
Et à ce petit jeu des informations non essentielles, même les invités participent, comme notre ami Giroud.
Par exemple, je communique par un vieux truc qui date des Gaulois, c'est-à-dire une enveloppe et puis un timbre et puis la poste et puis etc. Et ça suffit. Et le téléphone quand même.
Et une information qui a retenu notre attention après les très bonnes audiences d'Europe 1, c'est que certains en profitent bien. Musique pour notre directeur d'antenne, musique pour Alain. Oh, oh là là, Alain qui va bientôt pouvoir retrouver l'air de Tahiti. Mais pourquoi?
Notre directeur d'antenne. Ne vous moquez pas.
Monsieur Liberti, qu'on salue.
Ah oui, et qu'on aime.
Et bien sûr, et puis c'est important de citer ses audiences. Parce
mais
que,
de remercier nos auditeurs.
Parce que comme le disait Olivier à la cantine hier, il va toucher une petite prime pour les audiences.
Et vous le réclamez sur les réseaux sociaux. La série vous a manqué pendant une semaine. C'est le retour de la célèbre rubrique GG commente.
Ah non.
Les lignes, les TER.
Aujourd'hui dans GG commente tout, GG nous donne son avis sur les trains.
Les lignes des TER sont parfois dans un état invraisemblable. RERB, si parfois les
lignes. Des nouvelles rames qui sont pas mal.
Les
quand
lignes
même.
Secondaires.
Merci GG. Aujourd'hui encore dans GG commente. GG nous donne son avis, tiens, sur l'Irlande.
Pas que à quel goût elle est exactement, mais...
Ah non, mais c'est ça, l'Irlande,
c'est
plutôt agréable.
Merci GG, à demain pour un nouvel épisode de GG commente tout. Et si vous nous rejoignez seulement à l'instant, voilà l'information qu'il faut retenir.
Elles sont très bonnes, les frites à la cantine.
Ah,
et
oui,
c'est un
oui.
vrai problème, d'ailleurs.
Ouais, merci Pascal. Et dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur Europe 1, nous avons des révélations. Dimitri, c'est des choses, c'est tout ce qu'il se passe dans la rédaction.
L'image je suis en mesure de révéler dans ce studio qui est infidèle.
Wow, Qui est infidèle à Europe 1? Qui l'a été? Ah, Julien, pourquoi vous mettez la chanson de Florian Carassou Maillan? Florian, défendez-vous!
Allô, go? Pas qui? C'est beaucoup là? Beaucoup!
Merci, Florian. Clac, clac, clac. Merci, Florian. À demain. Ne rentrons pas dans ces sujets. Je préfère laisser la parole à vous, Pascal.
L'important, c'est d'être fidèle à soi-même.
Oui, oui,
bien sûr.
Bon, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Journée mondiale de l'infidélité. La chanson d'amour ne sera donc pas pour Céline Géraud, qui n'est pas dans le studio, mais pour ma GG d'amour, nostalgique de son amant des vacances,
qui
Fabrice.
Ça oh non. N'importe quoi.
Le plus beau de Morlaix.
Eh bien, merci Géraldine,
merci
Julien.
Merci Pascal.
Julien Blanc.
Merci à vous.
Et c'était un plaisir. On n'arrive plus à l'avoir. Non, il est au taquet. Julien Blanc à l'antenne, ça n'existe plus. À demain.
Pascal Pro de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.
Et pour échanger avec Pascal Pro, il vous suffira de composer le numéro du standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. La nuit se poursuit dans un instant avec Valérie Darmon dans la libre antenne en nouvelle diffusion. Ce sera juste après Noah Kahan. Voici Stick Season sur Europe 1. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now you're tired. Tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laughed. You once called me forever, now you still can't call me back. And I'm the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Stick Season, le chanteur américain Noah Kahan, à l'instant sur Europe 1, très impliqué pour tout ce qui touche à la santé mentale. D'ailleurs, sa chanson Your Needs, My Needs en atteste. Si vous avez la curiosité de l'écouter, eh bien, n'hésitez pas, rendez-vous sur Internet. D'ailleurs, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous trouverez très facilement la traduction en français. Il parle de l'omniprésence des médicaments, des antidépresseurs dans notre société, ce qui m'amène à la libre antenne. Et on le sait, mettre en mots ces mots, M-A-U-X, c'est quand même le début de la guérison. C'est très important de formuler ce qui nous fait souffrir, ce qui nous blesse, ce qui nous chagrine. Valérie Darmon est là pour vous écouter. Elle recueille vos confidences chaque vendredi, samedi et dimanche de 22h à 1h du matin sur Europe 1. Et chaque nuit, eh bien, on aime bien redécouvrir quelques-uns de vos témoignages.
Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1.
Eh bien, ça fait un petit bout de temps que je vous attendais, puis je suis heureux de vous avoir au téléphone.
Eh bien, moi de même.
Voilà, bon, par l'intermédiaire de Juliette, hein, on se rend compte, puis j'y croyais plus, j'ai dit, mais ils veulent plus de moi, c'est pas possible.
Mais si, mais si, mais c'est parce qu'on a vraiment, et je remercie les auditrices et les auditeurs, on a de nombreux, nombreux appels dans la libre antenne, que ce soit pour Olivier Delacroix ou pour nous, mais on y arrive, alors je vous écoute, de quoi vous voulez nous parler Jean-François ?
Eh ben moi, je vais vous parler éventuellement d'une agence matrimoniale, si le sujet peut débattre. Et j'ai écouté le sujet d'avant, en fait, la dame qui se plaignait, mais c'est de la folie. Hein. Oui. Et quand on a enlevé la peine de mort, Madame Terre a dit on enlève la peine de mort, et là, il y a un petit problème. Moi, je pense que ça ferait pas de mal à certaines personnes de mourir.
Oh là, oui, enfin là, c'est un petit peu. Je peux pas vous laisser dire ça parce que là, on parle d'un pervers narcissique. Bon, voilà. Et puis, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Bon, si vous voulez débattre, voulez débattre de la peine de mort, appelez Pascal Pro. Voilà. On parle de l'info dans le domaine de l'info.
Je pars. Voilà. Voilà. Comme la citation d'hier, hier soir. Vous avez cité
un proverbe indien.
Voilà.
Gardez les yeux ouverts. Oui, allez-y. Voilà. Je vous écoute.
Moi, c'est la nuit la plus sombre à une fin lumineuse.
Magnifique. Mais oui, et d'ailleurs, en fait, la nuit a été créée avant le jour. Hein. Si on lit un petit peu la Bible, c'est au début fut créé la nuit et le lendemain le jour.
Qui a tort, qui a raison.
Ce qui veut dire que derrière la nuit, derrière l'obscurité, derrière le noir, il y a la lumière. Voilà, c'est toujours dans ce sens-là. Donc vous avez raison, donc je vous rejoins.
Vraiment, vous avez répondu à ma question, mais bon, ça ne m'a rien prouvé jusqu'à maintenant.
Ah, vous pensez qu'on reste dans le tunnel ? Pensez qu'on reste dans le noir ?
Non, sûrement pas. Ah non. Ah, moi, j'adore la lumière. Je vis dans le soleil et je vis pas...
Vous habitez où ?
À Soissons.
À Soissons, c'est encore l'Oise ou l'Aisne ?
Non, c'est l'Aisne.
D'accord.
On est limitrophe avec... Enfin, on est Picard. Hein,
c'est ça, c'est en Picardie, exactement. Je suis issue de Compiègne, donc je connais bien.
Vous êtes de Compiègne ?
Oui, et j'ai passé mon bac à Amiens. Donc ce n'est pas loin de Soissons, toutes ces régions.
C'était hier.
Non. Alors,
moi, je suis de Compiègne aussi à la base. Je suis tranquillement.
Voilà. C'est juste à côté. Mon frère allait jouer au foot là-bas. Bon, alors, revenons. Et on est entre Picard.
On a vu l'un contre l'autre.
Voilà.
Oh ben, certainement.
Alors, revenons aux agences matrimoniales. Elles vous ont fait des misères ou...
Non, même pas. Ils n'ont pas eu le temps, parce que bon, ça m'a fait rire. Mais bon, c'était carrément le petit piège. Bon, voilà, je vais vous donner un petit exemple. Je recherche un peu dans mes papiers. Ah, je vais vous donner une petite définition de l'amour, tiens.
Ah oui.
C'est se voir le plus possible et s'aimer seulement, sans ruse et sans détour, sans honte ni mensonge, sans qu'un désir nous trompe ou qu'un remords nous ronge, vivre à deux et donner son cœur à tout moment, faire de son amour un jour au lieu d'un songe, et dans cette clarté, respirer librement, c'est vous la tête en fleur et c'est sans souci, qui me disiez qu'il faut aimer ainsi, et c'est moi, vieil enfant du doute et du blasphème, qui vous écoute et qui vous répond. Oui, longue vie autrement, mais c'est ainsi. Une complicité à deux, qu'on aime, c'est pas de moi, c'est Alfred de Musset.
Ah oui, parce que j'allais vous demander si c'était vous qui aviez écrit ces vers.
Je pourrais le faire.
Ah, vous écrivez aussi ? Vous écrivez
ouais.
aussi ?
Ouais, j'adore. Alors, je vais commencer par le début. Je suis électroniste. Vous savez, vous connaissez.
Électroniste ?
Électroniste, ouais.
C'est quoi ?
Alors, ce qui veut dire par là que j'ai pas d'ordinateur, J'ai pas de réseaux sociaux. Hier, je vous entendais parler des réseaux sociaux. Et...
Ah oui, avec Lou Pernod hier, effectivement.
Ouais. Alors, c'est pas du tout mon trip à moi, parce que on peut raconter n'importe quelle connerie. Que puis j'ai pas envie de dire, bah tiens, je suis en train de manger ça, prendre en photo. Alors, je trouve ça tellement ridicule que ça me gonfle. Mais bon.
Vous chacun... avez quel âge? C'est juste pour connaître la génération. Vous avez quel âge?
Alors, moi, je suis un petit jeune qui débute dans la vie. Je suis pas un perdreau de l'année, comme il dirait votre ami. Mais je vais avoir 70 ans.
D'accord.
Au mois d'octobre, le 13 octobre, si on veut faire de la numérologie, voilà.
Numérologie avec votre date de naissance.
D'accord. J'adore le 13, ouais.
Alors donc, anti-réseaux sociaux, anti-téléphone portable, vous avez la télé quand même?
Non, je ne suis pas anti, non.
Ah, vous n'utilisez pas?
Non, je ne suis pas anti, mais j'en ai pas, moi j'en veux pas.
D'accord.
Ah non, non,
et pas de télé, et pas de télé non plus?
Non.
Bon, on a de la chance, vous avez la radio.
Ben, pour vous écouter.
Voilà, on a de la chance.
Ben oui, c'est vous qui avez de la chance, c'est moi aussi.
Alors, comment vous faites dans ce monde-là, Jean-François, sans télé, sans téléphone, sans réseaux sociaux, comment vous vivez?
Eh ben, je vis avec ma petite Juliette, qui est ma petite chienne.
Qu'à quel âge, votre chienne?
Juliette, tu réponds, s'il te plaît. Elle est en train de dormir sur la couette. Quel âge tu as? Elle me regarde avec des yeux. Non, je t'ai réveillée. Elle a 9 ans.
9 ans. Et c'est quelle race de chien?
Alors, il y en a pas mal. Elle est pleine de points noirs. Les enfants la confondent avec un dalmatien. Mais c'est pas un dalmatien. En fait, il y a du braque. Elle est chien de chasse à l'origine.
D'accord.
Il y a plein de croisements. Ouais, il y a au moins 5 croisements. Ça, je ne savais pas, mais peut-être vous ne le savez pas non plus, je vous l'apprends. Une chienne peut recevoir 5 mâles, et donc il y aura 5...
Papa, tout simplement.
Cinq papas, mais qui vont envoyer leurs jeunes.
C'est ça, qui vont se mélanger pour faire une race de chiens, tout simplement.
C'est pas une race, c'est qu'elle prend tous les avantages de tous les mâles. C'est quand même bizarre, hein. Les femmes, elles sont bizarres. Mais bon, c'est elles qui ont raison. Moi, j'adore les femmes.
Alors, est-ce que vous en avez une dans votre vie?
Non.
Ça fait combien de temps que vous êtes seule?
Bien, ça fait plus de 3 ans maintenant.
Et qu'est-ce qui s'est passé
une amie d'enfance, parce que moi je me suis absenté en Savoie, je suis resté Savoie, Haute-Savoie pendant 15 ans, et donc bon, je suis pas vierge bien sûr, et je suis balance. Et toujours est-il que je suis revenu, et un jour je pars à Compiègne avec un ami, puis on discute à la terrasse du bar du château, je sais pas si vous connaissez Compiègne.
Parce que j'ai grandi là-bas.
Moi, j'étais à Mitière. J'avais mon petit appartement à Mitière en face de golf, donc après le champ de course. Toujours est-il que j'entends une voix. Je dis, mais c'est bizarre, tu connais cette voix. Et je me retourne, je dis, Pascal. Je dis, des fois que je me plante, elle me dit, Jean. Oh, on s'est retrouvés. Et c'est quand même...
C'est beau.
Donc, c'est beau, quand même, oui. L'amour. Quand c'est bien, c'est quoi? Et toujours est-il, on a vécu 2-3 ans. Puis elle avait son braque, c'était un braque d'Auvergne, et on faisait les concours ensemble. Et là, j'étais vraiment bien habité vers l'université, vers la fac en haut, derrière la caserne des pompiers, pas derrière l'université, quoi. Toujours est-il qu'on a eu on a vécu de belles choses. Et puis, où on en était, la merde? Je me souviens plus, excusez-moi.
Je vous demandais comment cette histoire s'est terminée, en fait. Pourquoi vous n'êtes plus avec
elle? Elle est décédée, ouais.
D'accord.
Elle est au cimetière de Compiègne, donc je veux pas tarder à aller faire un petit tour. Et il faut y aller en voiture, parce que j'y vais avec une amie de Saint-Léger au bois, donc il est grand, le cimetière de Compiègne, attention. Ouais.
Oui.
Mais donc, moi, je suis très Simon, si vous connaissez.
Oui, 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 je connais bien, je connais bien. Donc, depuis 3 ans, vous êtes seul.
Oui, 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 oui.
Et vous avez envie de retrouver une compagne?
Oui, retrouver, mais pas... Comment dire? C'est un peu bête ce que je veux dire. Mais j'ai toujours vécu chacun chez soi. On prend tous les bons moments ensemble. Et en fait, moi, des mauvais moments, j'en ai pas beaucoup. C'est ce qui me fait parler, parce que j'entends beaucoup de témoignages, que les gens pleurent et tout, mais moi, ça me gonfle un petit peu tout ça, parce que je dis, merde, la vie est trop courte. Pardon. La vie est trop courte pour se lamenter sur son sort, quoi. Je dis, moi, demain, je vais me lever, si je vois le soleil qui brille, c'est super. Si je vois qu'il pleut, ben je me mets un petit film, et puis voilà, puis Inch'Allah, quoi.
Vous vous contentez de ce que vous avez dans votre vie, Jean-François, c'est ça? C'est ça le message? Soyons satisfaits de ce qu'on a déjà dans notre vie?
En gros, ouais. 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 Oui, oui. Je m'estime heureux par rapport... J'ai des amis qui rentrent du Vietnam, j'ai des amis qui rentrent de... Je dis oui. Je dis... Mais arrêtez, en France, de pleurer, arrêtez. Merde.
Vous avez des enfants?
Non.
Vous vous sentez...
C'est catégoriste, hein.
Ah ben, je sais pas, c'est la vie aussi qui passe par là. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire, si? Je ne sais pas.
Oh, ben, si, j'ai eu l'occasion, mais j'ai eu des amis, hein. Je sais pas, je vous ai dit, je suis pas vierge. Mais bon, ben, voilà. Et peut-être que j'ai des enfants et qui ne sont pas ici. Bon, après, j'étais dans la marine, donc j'ai voyagé pas mal. Et en fait, je voyage toujours. Là, je vais partir en Bulgarie. J'ai une voix cassée. Au mois de mai. Donc, tous les ans, je pars. Et puis, pour mon anniversaire, le 13 octobre, je voulais partir en croisière. Et puis, voilà. L'année dernière, j'étais en Croatie. Enfin, j'étais un peu en Pologne. J'étais... Je voulais faire Estonie, Lettonie...
Ah, vous adorez Turquie. L'Europe de l'Est.
J'adore, ouais, j'ai une préférence.
Vous partez seul?
Là, je vais partir avec ma voisine, mais sinon, en général, non, c'est un voyage organisé.
Ah oui, d'accord. Vous partez seul, mais en groupe, en fait, c'est ça, hein?
Ouais, voilà.
Vous vous sentez seul dans la vie ou pas, Jean-François?
Bah, par moment. Je vais dire, comme je vous ai dit, j'ai ma petite Juliette, elle m'accompagne demain matin. Hop, c'est elle qui va me dire, allez hop, on va faire le petit tour. Là. Ben ouais, là, elle écoute, hein, vous inquiétez pas, elle est très intelligente. Et puis, ouais, je me sens seul, surtout l'hiver en fait. Mais après... après, je pars en Auvergne, en fait. Je pars dans la Creuse, au mois de juillet. Donc, j'ai programmé quand même mai, juin, Bulgarie, juillet. Hop, on part dans la Creuse, avec ma petite chienne, parce que là, je ne peux pas l'emmener en Bulgarie. Donc, elle est heureuse comme tout. Là-bas, elle est appréciée. Ça fait 4 ans maintenant qu'on va là-bas, donc dans le même village. Un tout petit village, si vous connaissez, c'est Évolema. Donc, à la frontière du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Pardon.
Et vous connaissez tout le monde là-bas? Parce que vous avez l'air d'avoir, comme on dit dans notre jargon, un gros capital sympathie. Vous avez l'air très sympathique.
Ouais. Je ne connais pas tout le monde, ça serait prétentieux, mais...
Bien sûr.
Je connais énormément les commerçants et tout. Et j'arrive avec ma petite bouteille de champagne, parce que bon, on n'est pas loin de la Champagne, donc je dis, allez, quoi. J'aime la fête, j'aime la convivialité.
La sympathie.
Ouais. Ça n'a pas... Justement, il y a un article qui me... Enfin, un article... comment dire? Je l'ai noté, d'ailleurs. J'entends la table des bons vivants.
La table des bons vivants, c'est l'émission de Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ouais, je l'ai noté. Ouais. En fait, mais je dis, comment boire un petit verre d'eau avec la table des bons vivants? Moi, honnêtement, je vous fais une fondue ou une raclette ou je ne sais quoi. Mais si vous... je ne veux pas critiquer, hein, Mais la personne qui va boire un verre d'eau avec ça, excuse-moi. Moi, je suis capable d'arrêter pendant un mois de boire, mais autour d'un bon repas. Demain, je vais à la danse synchro, par contre, à Soissons. Donc, il y a. Mais voilà, on va tous prendre un petit verre. C'est ce qui me gêne un petit peu, mais bon, je ne vais pas critiquer.
Bah, on peut, hein, si on consomme avec modération un bon vin, c'est toujours agréable, mais à consommer avec modération.
Ben, voilà, c'est ça. Mais les AA, par contre, d'un peu, j'écoutais l'émission et tout, il y a une dame, je sais qu'elle s'appelait Cécilia, mais je dis, mais non. C'est impossible. Moi, je dis, c'est bien, mais moi, j'adore la convivialité d'un petit verre, une petite coupe de champagne et tout, on discute. Bon, ben voilà, ça détend un petit peu les neurones et puis on discute. Mais, enfin bon, comment dire, pas en user et pas en abuser, quoi.
C'est ça. Est-ce que ce sont les petits plaisirs de la vie, là, dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, regarder le soleil se lever, prendre un petit verre au café, etc., qui font que la vie est moins, moins solitaire, justement?
Oh, moi, je la vois comme ça. Honnêtement, depuis ma plus tendre enfance,